Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices, auditeurs de la Radio Rage, voix de jeunes, bonjour. Heureux de vous revoir dans l'émission Café de Liberté. Pour cette émission, nous allons aborder la question des mouvements sociaux et dynamiques qui secouent la région de l'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique du Nord, la dynamique et le contexte politique, et social et économique que rencontrent ces pays dans un cadre régional qui est incertain, soumis des pays et d'une région soumise à une forte répression des pouvoirs publics et à des défis de développement et de réorganisation des sociétés. Pour ça, à cet effet, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir parmi nous Karim Kebir, journaliste au quotidien Liberty. Bonjour Karim.
Bonjour.
Marhaba bik عندنا هنايا. Samir Larabing, journaliste et jeune chercheur qu'on a l'habitude de recevoir ici à la Radio Rage. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi Jamal Alilat, journaliste et reporter au quotidien Al Watan.
Bonjour.
Bonjour, merci Jamal. Donc je commence par Jamal. Vous étiez au Maroc pour couvrir les événements d'Al-Husseymiya. Dans quel contexte vous avez retrouvé la dynamique sociale et aussi dans comment a évolué pendant que vous étiez et aussi vous avez fait l'objet des autorités marocaines vous ont arrêté aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre petite expérience là-bas?
Bah, je suis arrivé le 26 Sucarwa au Maroc et ce qui a changé tout de suite après, il y a eu une répression. C'est-à-dire avant le mouvement était pacifique, mais il n'y avait pas de, c'est-à-dire ça se déroulait tranquillement. À partir de, c'est-à-dire de mon arrivée, on a commencé à avoir une répression de ce mouvement. Et là, c'est là que les choses ont changé.
Donc ça a été le fait marquant de ce mouvement a été un mouvement de forte, un mouvement pacifique. Qui a eu une grande mobilisation, qui a commencé par la revendication de principe, par une justice et vérité sur la mort d'un vendeur de poissons, mais qui a, au fur et à mesure que les événements ont, le temps passé, que c'est devenu un mouvement qui a dépassé
oui,
cette revendication.
Ça a pris de l'ampleur petit à petit. Ça a commencé avec la mort de Mohsin Fekri, donc le jeune pêcheur. Et. À partir de là, c'est-à-dire des revendications sociales se sont greffées sur ce mouvement, sur une quête de justice. Et ça a débordé de l'Husseymiya vers toutes les régions du Rif. C'est-à-dire on a commencé à réclamer le retard de développement qui touche cette région. C'est un retard qui date depuis des années. Le mouvement, plutôt la région du Rif, a un passif lourd avec le régime marocain. Donc on a commencé à revendiquer un hôpital, une université, des routes, des projets de développement, etc. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Au départ, le pouvoir a laissé faire. Il a laissé les gens manifester et revendiquer tranquillement. Donc je disais au bout d'un instant, pas au bout de 7 mois plus tôt, on a décidé tout à coup de réprimer brutalement. Et cela a coïncidé avec mon arrivée au Maroc. D'ailleurs, c'est ce qui explique un petit peu mon arrestation, parce que si j'étais arrivé une petite semaine avant, je n'aurais pas été inquiété, ça se déroulait tranquillement. Les manifestations se déroulaient pacifiquement et tranquillement. À mon arrivée, il y a eu une volonté de réprimer, on a commencé à arrêter les gens, à les mettre en prison. Donc, à partir de là, on ne voulait pas de la présence d'un journaliste, de journaliste étranger.
Un témoin gênant.
Qui devient un témoin gênant. À plus forte raison d'un Algérien, parce qu'on nous disait, vous n'avez rien à faire ici, vous avez vos problèmes, occupez-vous plutôt de vos problèmes. Donc, le pouvoir marocain a décidé de réprimer brutalement ce mouvement et de mettre tous les animateurs en prison. D'ailleurs, ils viennent de passer devant le juge et
ils ont été condamnés.
Oui, ils ont été condamnés à des peines très lourdes. C'est-à-dire, ce qui est contradictoire, c'est que depuis des mois, on disait, et c'est un mouvement pacifique, d'ailleurs, l'ambassadeur marocain à l'ONU est allé jusqu'à dire, répondant à une question du journaliste algérien, il est allé jusqu'à dire, écoutez, le Maroc, c'est pas l'Algérie, les gens ont le droit de revendiquer pacifiquement ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils le revendiquent pacifiquement, donc que le droit de manifester et de s'exprimer existe, je ne vois pas.
La raison de
les réprimer et de les condamner à des peines aussi lourdes. Il se peut, je pense que c'est une tactique. On a décidé de réprimer pour que le mouvement ne fasse pas tache d'huile, parce qu'il commence à faire tache d'huile. Il y a beaucoup de régions au Maroc qui sont dans les mêmes conditions économiques et sociales que le RIF et qui peuvent être amenées à prendre le même chemin de protestation. Donc, pour qu'ils ne fassent pas tache d'huile, on a décidé de le réprimer, de condamner ces gens. Et puis, au bout d'une semaine, d'ici l'Aïd, le roi va intervenir
pour prononcer
l'amnistie, grâce,
voilà.
L'amnistie et avoir le beau rôle. Mmh. Bon,
c'est classique comme...
Oui, c'est classique comme procédé. D'ailleurs, c'est des revendications alimentaires demandées à un hôpital. C'est l'un des fondamentaux de la citoyenneté, soit un hôpital, une université. D'ailleurs, c'est cette exclusion, cette marginalisation, c'est la même chose qui arrive un peu partout quand un mouvement commence à se donner de l'ampleur et à avoir du sens. On commence à réprimer cette chaîne de dialogue entre citoyens et gouvernement n'a plus de sens dans ces pays de la région. Pourquoi? Parce que si on avance dans les choses, on retrouve les mêmes procédés qui sont toujours Karim, non?
Parce que c'est lié à l'absence de aussi à la nature du régime. Pratiquement les trois régimes du Maghreb, si on exclut un peu la Tunisie ces derniers temps, mais sinon l'évolution historique, ce sont des régimes fermés qui n'ont jamais qui sont basés parfois sur des notabilités, c'est-à-dire c'est pas des pouvoirs légitimes qui ont une vision de développement ou qui ont c'est-à-dire ils ont le souci de régler les questions qu'ils ont héritées du colonialisme. Je pense aux questions linguistiques, aux questions identitaires, à l'équilibre, ce qu'ils appellent l'équilibre régional, développement, c'est-à-dire la distribution équitable des richesses. Donc si vous prenez par exemple le Maroc ou l'Algérie, les régions berbérophones et un degré moins de la Tunisie aussi, elles subissent une forme de marginalisation. Bon, comme je l'ai dit, Jamel l'a souligné, le RIF, c'est avec la révolution, la République. L'Akhtabi. Donc il y a dans l'imaginaire marocain, enfin je pense, je connais pas bien le Maroc. Mais j'imagine qu'il y a cette forme de confrontation permanente avec le pouvoir central, avec le Makhzen. Et souvent, si vous prenez même le père Hassan II, c'est quelqu'un qui a fait en sorte à ce que ces régions ne soient pas développées. C'est une forme de punition. Ils l'ont fait ici chez nous, en Kabylie, en Tunisie. Bon, je connais pas, je connais un peu, mais pas beaucoup. Vous avez aussi en Tunisie, il n'y a que les régions du littoral, là où il y a la bourgeoisie, qui sont développées, mais le reste, l'intérieur de Tunisie, c'est un pays très pauvre. D'ailleurs, même la révolution, il a démarré de Bouazizi, de l'intérieur. C'est pas les villes. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que ces régions ont été marginalisées. Après, c'est normal, dans l'évolution, il y a des mutations, les gens prennent conscience, les gens s'organisent. Mais essentiellement, je pense que à l'origine de ce malaise, c'est d'abord d'ordre économique. C'est-à-dire, même dans les pays où il y a eu des révolutions, contrairement à ce qu'on a tendance de croire, c'est-à-dire c'est l'idéal de liberté. C'est vrai, on peut l'analyser de cette sorte, mais l'idéal de liberté, c'est parce que justement, les gens ont été dans la misère. Mais s'ils étaient aisés, ils auront une autre façon de percevoir le rapport au pouvoir, le rapport à l'autre. Donc c'est cette exclusion qui a fait que ces régions se sont rebellées. Ils vont toujours se rebeller tant qu'il n'y a pas. Ils se sont mis à l'écart de la dynamique du développement. Ils se sont exclus, c'est-à-dire sur le plan culturel, ainsi de suite.
Ils se sont une certaine. D'ailleurs, c'est le slogan qui est un des slogans, c'est non à la hogra, à l'injustice, à l'exclusion. Oui, pour le développement, c'est des mots qui reviennent un peu dans tous les mouvements sociaux de la région. Samir, c'est des mouvements qui ont d'ancrage social, mais qui n'arrivent pas à atteindre des objectifs d'un. Parce que là, dans le cas de l'Hassaymiya, dans le cas de l'Algérie, dans le cas de la Tunisie, les récents événements sont révélateurs d'un malaise social profond.
Oui, c'est-à-dire absolument. C'est-à-dire, il faut rappeler justement, c'est-à-dire au Maroc, il y a une forte tradition politique quand même, c'est-à-dire en termes de mobilisation, d'expérience, de mouvements sociaux. Bon, là, on commence avec, par exemple, la région du Rif. C'est l'insurrection de 1958 qu'il continue jusqu'à présent, c'est-à-dire à payer cher. C'est-à-dire le Marzin, jusqu'à présent, il a toujours cette haine de cette région parce qu'elle a osé. Il y a eu une insurrection en 1958, mars 58 à peu près, une insurrection militaire, justement, qui a été réprimée dans le sang. Bon, je rappelle aussi au Maroc, c'est-à-dire il y a eu plusieurs mouvements sociaux de protestation. C'est le cas de 77, 84, en 90, à l'occasion de la deuxième guerre du Golfe. Il y a eu même une mutinerie de militaires. Il y avait 1500 militaires qui ont essayé de traverser les frontières pour combattre en Irak. Il y a eu une grève générale extraordinaire en décembre 1990, si ma mémoire est bonne. On a aussi Sidi Ifni à partir une nouvelle dynamique à partir des années 2000 avec 2007-2006 Sidi Ifni et quelques régions. Et on a aussi en 2011 le mouvement du 20 février. La spécificité, je pense que le mouvement Rifa est aussi le prolongement de toutes ces luttes sociales et politiques qu'a vécu le Maroc depuis les années 50 à aujourd'hui. Un autre aspect, mais il y a aussi cette spécificité, ce fond identitaire qui est toujours là, parce que c'est une région où ils ont eu aussi leur propre MCB, mouvement culturel identitaire, qui a milité pendant des années pour l'officialisation, pour la promotion de la langue amazigh. Mais là, jusqu'à présent, bien sûr, c'est-à-dire les revendications, c'est propre à tous les mouvements, c'est-à-dire populaires, c'est un mouvement interclassique. D'abord, tu as plusieurs couches sociales qui interviennent, les acteurs. Il y a beaucoup de similitudes. C'est un mouvement populaire, interclassiste. Il y a des femmes, des hommes, des travailleurs appartenant à la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie. Les directions, c'est généralement une direction petite bourgeoise, des classes moyennes lettrées. Et bien sûr, cette fois-ci, il pose aussi la question du développement. Et quand je vois, par exemple, on revendique un hôpital, c'est grave. C'est-à-dire, on est en 2017, c'est-à-dire toute une région qui n'a pas un hôpital, c'est grave. C'est-à-dire, je mets un petit bémol la comparaison avec la Kabylie. Par exemple, la Bougie, on a 7 hôpitaux. C'est pas les mêmes.
Juste une petite précision, c'est un hôpital d'oncologie.
D'oncologie, d'accord.
Parce que le cancer
D'accord, c'est bien
de pourra peut-être expliquer plus tard, oui. Mais le cancer est en train de faire des ravages, donc il réclame un hôpital d'oncologie.
D'accord. C'est-à-dire, mais un véritable problème de développement. C'est-à-dire, ils ont un sérieux problème d'infrastructure, de base, d'école, de, je sais pas, d'université. C'est-à-dire, au moins que cette région ait sa part, c'est-à-dire, dans le développement national. Et cette question de développement national au Maroc, elle est aussi structurelle. Allez, parce qu'avec le modèle économique marocain, il a plutôt développé des grands centres économiques. Tu as Rabat, Marrakech, tu as 4 ou 5 régions qui sont assez développées. Et bien sûr, le rapport au marché européen, c'est-à-dire toute la démarche de développement économique, elle est plutôt destinée au marché mondial, au lieu de subvenir aux besoins, à la demande, au développement local. C'est-à-dire le modèle économique prôné par le Marzen, c'est normal qu'il y ait des contradictions et qu'il y ait des soulèvements, mais Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vécu en Algérie, ou là, c'est-à-dire le cas tunisien, c'est-à-dire dans les pays du Maghreb.
Et justement, il y a cette question de cette question d'identité qui revient toujours dans tous les mouvements. Est-ce que les gens même quand même au Maroc, il y a des réformes, il y a l'officialisation de Tamazight à un certain moment, l'usage, son usage, il y a un certain développement. Est-ce que les gens se sentent encore dans le besoin ajoutons à cela l'exclusion économique et aussi la souffrance de la région du Rif, un peu particulièrement, puisque c'est de cette région qu'il s'agit.
Je pense qu'il faut que s'il y avait lieu de faire un parallèle entre le Rif et notre région, ce serait la Kabylie. Parce qu'il y a un fond identitaire qui s'exprime, qui est très fort, il y a une revendication identitaire. La dimension amazigh du Rif ou celle de la Kabylie n'ont jamais été prises en charge réellement par les pouvoirs centraux. À cela s'ajoute la marginalisation de ces régions, parce que ce sont deux régions montagneuses, d'accès difficile, enclavées, où le développement économique n'a jamais été d'un grand apport. Le troisième élément, c'est un problème, disons, de rapport tendu entre le pouvoir central et ces régions, du fait de plusieurs soulèvements ou insurrections. Dans le cas du Rif, ça a commencé avec la République de Rtabi dans les années 1900.
Avec une forte répression aussi qui a suivi.
Oui, à partir de là. Donc, ça fait pratiquement un siècle que cette région est en guerre avec le pouvoir central. On ne va pas rappeler le mépris, par exemple, de Hassan II qui est allé jusqu'à traiter ces gens de Aoubech. C'est-à-dire, vous êtes des Apaches, vous êtes des gens de montagne incultes et rustres. Donc, ça explique un peu donc marginalisation économique et sociale qui se greffe sur un fonds identitaire qui n'a jamais été satisfait, un rapport tendu avec le pouvoir. Donc on en arrive à des révoltes comme celle qu'on voit aujourd'hui dans le Rif ou ce que la Kabylie a vécu durant le printemps noir.
Mais on assiste là à un basculement après des mois de revendications, de manifestations pacifiques. On assiste vers un basculement, vers une certaine violence. Est-ce que c'est pas quelque chose que les gens poussent vers la violence pour étouffer la revendication? Parce qu'il y a un élan de solidarité qui s'exprime d'abord au sein du Maroc et aussi au sein de la région, Karim.
Je pense qu'il a expliqué Jamel au début, c'est-à-dire ça c'est des méthodes des régimes autocratiques ou des dictatures. C'est-à-dire, s'ils laissent les gens s'exprimer pacifiquement, ça va faire une tache de huile, parce que les zones de mécontentement, de colère, de frustration, elles sont dans toutes les régions réellement. Parce que même si vous prenez Casablanca, ceux qui en profitent réellement, c'est une petite caste, ce n'est pas tous les habitants de Casablanca. Il y a des bidonvilles à Casablanca. Si vous voyez, il y a dans les régions du sud encore, marocains, c'est encore... Il y a des régions, peut-être Djembele est au courant, puisque il a visité même les régions du sud. Il y a des régions où tu as l'impression qu'ils n'ont même pas vu l'indépendance.
Juste ajouter un petit détail là-dessus. Je suis allé effectivement dans le sud-est du Maroc, donc à Ouarzazate plus bas, et un jour je me suis retrouvé dans un village. Je vous jure que j'avais l'impression d'être dans la Kabylie des années 50.
Voilà, dans un autre temps, dans une autre époque.
J'avais l'impression d'être projeté dans le passé vers la Kabylie des années 50. Les mêmes images, la même topographie. Rien n'a changé. Il y a des villages, il y a des régions au Maroc où rien n'a bougé depuis pratiquement
un siècle. Les 40. Oui,
alors, ils poussent souvent les mouvements, ils les poussent, c'est le traitement qui se fait même ici en Algérie. Ils poussent des gens à la violence parce que c'est le seul terrain d'abord qu'ils maîtrisent eux. Et la deuxième des choses, c'est une façon de discréditer ces mouvements, c'est-à-dire pour que les autres régions ne viennent pas exprimer des solidarités, ne viennent pas, c'est-à-dire élargir le mouvement. Donc c'est une méthode pratiquement classique dans le traitement des revendications, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez affaire à des régimes qui sont fermés, qui ne croient pas réellement aux vertus du dialogue, ni à la démocratie, ni à la lutte pacifique, parce que si aujourd'hui ils cèdent sur ce terrain, demain ça sera autre chose. Donc c'est sa survie en définitive qui est en jeu. Et donc eux, ils commencent au début, d'abord avant que ça se propage, ils prennent toutes les précautions pour tuer dans l'œuf ces mouvements.
Justement, c'est des dynamiques qui n'arrivent pas à aboutir par des raisons de répression, mais aussi par des raisons aussi de... c'est des mouvements quand même qui sont un peu porteurs de changements, porteurs de revendications sociales, purement sociales. Pourquoi ça n'arrive pas à régénérer une forte mobilisation? Parce qu'on entend souvent, ils sont taxés de ces mouvements sociaux sont taxés de traîtres, d'être des traîtres, d'être manipulés, des gens, des séparatistes, dans tous les mouvements de la région. Mais pourquoi cette région n'est pas encore arrivée à face à son destin, face pour arriver à changer les choses, à basculer le cours de l'histoire vers un autre monde plus climat, plus...
C'est-à-dire, pour répondre, c'est-à-dire, le jeu politique au Maroc est assez complexe, parce qu'il n'y a pas que les mouvements
régions,
sociaux, mais
pas
vous,
uniquement du Maroc.
C'est-à-dire, eux, déjà, ils ne s'identifient pas autant que région uniquement. C'est-à-dire, ils sont, c'est-à-dire, les RIFs aussi, il y a eu des élections municipales, des législatives, ils ont leur candidat. C'est-à-dire, quelque part, ils sont intégrés dans un jeu politique aussi national. Les gens sont syndiqués, ils ont des associations. C'est-à-dire, pas comme nous. C'est vrai, ils sont un peu... marginalisés, mais ils s'inscrivent dans une dynamique, c'est-à-dire nationale, par rapport à un État central. C'est-à-dire, ils ont un territoire qui est le Maroc. Vous avez aussi d'autres acteurs. Et vous avez l'État avec tous ses démembrements. Je ne parle pas uniquement de la police, de la justice, de tout ça, mais vous avez aussi d'autres partis qui sont avec le Makhzen. Et c'est pareil, l'Istiqlal, l'USFP, les islamistes, et qui sont aussi représentés dans le RIF. Un autre aspect, c'est que même le mouvement berbérique dans la région du RIF, à un certain moment, il a été intégré quand même, c'est-à-dire dans le jeu politique. Il ne remettait pas en cause, c'est-à-dire la monarchie. Ils reconnaissent la monarchie, contrairement au mouvement, et la différence est là. Parce que cette dynamique-là, c'était quelque part aussi, c'est le prolongement du mouvement du 20 avril. Et le mouvement du 20 février 2011, et il remet en cause la monarchie. Il demande une monarchie constitutionnelle. Et là, et d'ailleurs, c'est une nouvelle génération de militants. C'est pas les anciens berbéristes des années 70, 80, 80, 90, qui sont à la tête du mouvement. C'est d'autres acteurs, et c'est des acteurs que le régime ne peut pas contrôler. Ils ont un minimum, c'est-à-dire d'indépendance, et le mouvement, c'est-à-dire le mouvement social, il a d'autonomie. Et tous les régimes, ils ont horreur de l'autonomie des mouvements sociaux. Parce que quand un mouvement qui est autonome, ça veut dire il peut décider indépendant, c'est-à-dire il a le choix de
souverain dans ses décisions.
Il est souverain, dans sa décision, mais les autres, c'était tout le monde qui avait un fil à la patte. C'est-à-dire, ils ne sont pas assez autonomes. Et vous avez aussi, c'est-à-dire, ça a duré et ça a commencé à prendre tache d'huile. Quand on voit les manifs de solidarité, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est-à-dire, au niveau à l'échelle internationale, régionale, même en Algérie, c'est-à-dire, il y a un affaissement des expériences, ils sont fatigués, il y a eu beaucoup d'échecs sur échecs. C'est un travail, ça peut être le début de quelque chose, mais on n'en sait pas. Ça dépendra de la persévérance, de la stratégie, des tactiques, des alliances, de beaucoup d'aspects que les acteurs doivent
prendre en considération.
C'est-à-dire prendre en considération. Et tel que je le vois, c'est-à-dire, il y a pas, je pense pas qu'il y ait une direction homogène politique qui doit réfléchir tout ça. Et c'est ça, c'est-à-dire l'horizontalité. le dynamisme, la démocratie directe, oui, bien sûr, on est preneur. Mais un mouvement social aussi a besoin d'une centralité représentative qui réfléchit au quotidien, parce que l'État, là, ses institutions, ses conseillers, jamais il travaille H24. Mais le mouvement social qui a besoin aussi de ce
C'est-à-dire un des défauts du mouvement social,
je parle pas de défaut, on n'est pas là pour juger.
Non, c'est pas juger,
c'est des limites.
Beaucoup plus.
C'est parler
des limites.
Voilà, on peut parler de limites d'un mouvement social, c'est aussi ça. C'est vrai, il y a
ça,
beaucoup
son
d'acteurs.
Inscription dans la durée.
Non, ils s'inscrivent dans la durée. Mais est-ce qu'ils ont les instruments, la force
pour affronter
toutes les éventualités? Parce que quand tu gères un mouvement, tu dois décider. Qui m'a dit que le juge est référé. Tu décides une heure. C'est
comment
ça.
Réagir à toutes les situations.
Bien sûr. Et ça intervient dans une période où on vient de sortir des élections où l'opposition elle est faible quand même. C'est affaibli quand même. Tu as la gauche traditionnelle qui ou l'extrême gauche qui est quand même assez faible. Vous avez les syndicats, un recul syndical d'une manière extraordinaire. Mais il y a de l'espoir quand même. On ne sait jamais. Hein. Bon, on ne peut pas dire que ça va évoluer dans tel ou un tel sens.
D'accord. Donc on va revenir à tout ça dans la deuxième partie sur les mouvements de la région, les mouvements sociaux, comment les capacités de pouvoir agir de l'avant et capitaliser toute cette expérience pour des changements significatifs pour la région et aussi les défis qui attendent toute la région. Ben, on vous revient vers vous dans la deuxième partie du Café des Libertés.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
On revient vers vous pour cette deuxième partie de l'émission Café des Libertés. Je rappelle juste que nous avons aujourd'hui parmi nous Karim Kiber, journaliste au quotidien Liberté, Samir Larabi, journaliste et jeune chercheur en sociologie, et Jamel Alilat, journaliste et reporter au quotidien à l'Ouattan. Je rappelle aussi que cette émission est consacrée aux mouvements sociaux et aux dynamiques de la région de l'Afrique du Nord et les mouvements que traversent les problématiques sociales et économiques. Aussi de revendications pour la liberté et la justice sociale dans ces pays. Donc on revient au débat. Donc on a dit qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces mouvements, à part, soit au côté Maroc, soit au côté de l'Algérie, ou un peu la Tunisie aussi. Donc c'est des mouvements qui viennent de la société pour revendiquer justice économique et sociale, mais aussi ils revendiquent leur appartenance, leur identité. Donc dans tout ça, Samir, dans la première partie, on termine en disant que ces mouvements sont porteurs d'espoir, mais aussi pourquoi ils n'aboutissent pas, mais aussi ils butent dans toutes les régions, ils butent sur les mêmes obstacles qui sont à un certain moment des mouvements qui montent et s'essoufflent, mais aussi ils subissent des répressions aussi assez atroces. Donc de la part du gouvernement et ça revient cycliquement sur les mêmes revendications qui deviennent récurrentes, mais ça, au-delà de la répression des gouvernements, ça devient un malaise social qui s'éternise et aussi qui étouffe les sociétés de cette région.
Oui, c'est-à-dire même, c'est-à-dire quand on parle par exemple de comparaison entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on peut faire même l'extension vers, c'est-à-dire l'Égypte aussi, hein, c'est-à-dire où les mouvements sociaux, on a connu des expériences, ou des expériences, des contestations sociales, des mouvements sociaux, avec la même similitude, et ils interviennent à la même époque, c'est-à-dire en termes de temps, notamment fin 70, début 80 à peu près, on a aussi la période post-chute du mur de Berlin, c'est-à-dire je parle des années 90, les années 2000, tout ça. Il y a beaucoup de similitudes, c'est important à souligner. D'ailleurs, à chaque fois, on retrouve les mêmes revendications et le même, c'est-à-dire les éléments détonateurs. Par exemple, dans les années 70, soit en Algérie, enfin en Algérie un peu moins. Au Maroc, Tunisie et l'Égypte, par exemple, c'était d'abord les lycées. Hein, ça demande, c'est des augmentations du prix de pain, de lait. C'est-à-dire il y a un élément social, c'est-à-dire qui enclenche. Généralement, c'est les augmentations des prix des produits de large consommation. C'est-à-dire y compris chez nous, par exemple, on l'a vu à peu près la période avec les plans anti-pénurie en 88. Et là, ça commence par des émeutes et ça fait des constructions. Il y a des militants qui interviennent, qui structurent. Et des fois, il y a des acquis, bien sûr. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que c'est l'échec total, mais il y a eu des acquis, c'est-à-dire soit des acquis sociaux bien précis. Vous avez des gouvernements qui cèdent à la pression, ou par exemple des cas d'ouverture politique, de construction de syndicats, de partis politiques. C'est-à-dire qu'il faut le souligner, c'est pas noir ou blanc. Là c'est un aspect. Là, vous avez bien fait de signaler, c'est-à-dire où l'essentiel des revendications, où ça n'aboutit pas à des renversements de régime. L'exception, c'est la Tunisie en 2011. C'est la seule exception, je parle de la rive sud notamment. Contrairement à l'Amérique latine par exemple, où le mouvement des années 70, les mouvements sociaux des années 70-80, ça a donné par exemple Lula, ça a donné Chavez, ça a plusieurs expériences. Là, c'est grâce au mouvement social, aux mouvements sociaux, qu'il y a des renversements fondamentaux, c'est des acteurs du mouvement social qui prennent le pouvoir. C'est le cas, par exemple, de l'Echevalesa en Pologne. Mais c'est-à-dire chez nous, dans la rive sud, notamment ce qu'on peut dire le Grand Maghreb, ou l'on peut dire la région arabe, on n'a pas pu y arriver à ce stade. Mais on a des similitudes. En 2000, par exemple, les revendications de 2011 ont tout résumé. Pain, travail et liberté. C'est-à-dire les choses les plus élémentaires. Quand s'il n'arrive pas, parce qu'il y a des raisons, il y a une histoire, il y a des rapports, des rapports sociaux, des rapports politiques, des rapports de force qui sont bien sûr différents. Et chez nous, ça devient même structurel. Parce qu'on est, par exemple, on peut citer l'arriération des acteurs politiques, la répression, même c'est des sociétés patriarcales. Les gens jusqu'à présent, c'est-à-dire, n'ont pas tué le papa au sens freudien de la chose. Il carroit au Zaïm, au sauveur, soit le Mahdi al-Muntadhar, ou là on l'appelle comme c'était Jamal Abdel Nasser, Boumdine, Bimbella, je ne sais pas qui d'autre. Mais justement, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait à l'avenir une bonne réflexion. C'est-à-dire, c'est pire. C'est-à-dire, même quand on a des expériences, tout à l'heure avant, on discutait, c'est-à-dire, quand on a eu l'expérience du MCB ou de 2011, jusqu'à 2001, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de bilan. Les acteurs n'ont pas fait de bilan politique par rapport à l'expérience, c'est-à-dire pour revoir ou voir quelles sont les failles, et pour que les nouvelles générations, les nouveaux acteurs, les nouveaux militants, c'est-à-dire apprennent aussi
des échecs de l'euro.
Des échecs. Nous, en Algérie, c'est plus grave. C'est tout le temps, c'est tout le temps l'échec recommencé. Mmh. Soit au niveau syndical, associatif, mouvement populaire, au niveau syndical, c'est assez dramatique quand même.
Les gens ne parlent pas beaucoup de leurs expériences, des mouvements du 80, le mouvement 88.
Non, je parle de bilan.
Le bilan dans le sens, voilà, dans le bilan,
qu'est-ce qu'on a... Et qu'il soit vulgarisé.
Voilà, vulgarisé aussi... pour capitaliser ces expériences. Il y a aussi, quand on parle de similitudes, il y a des similitudes de revendications qui sont communes à tous les citoyens de la région, mais sur le plan organisationnel, on a vu des mouvements tels que celui qui est un peu plus intéressant, celui de l'Hussaymiya, celui de dans les mouvements, soit au niveau de Ghardaïa, au niveau de la Kabylie, c'est des les formes de structuration qui sont un peu, c'est des structures citoyennes qui sont
de forme horizontale.
Horizontale aussi, comment ça on en voit presque, c'est la même chose qui
peut-être bien avant d'arriver là, il faudrait souligner, comme le disait tout à l'heure Samir, pain, travail et liberté. Au niveau de l'Hussaymiya, on disait Huria.
Pain, travail et liberté.
Non, et je cherchais les mots qu'il disait Huria, Karama, Adela, Ijtimaïa. C'est-à-dire, il y a un parallèle, ces mouvements sont tous fondés sur les mêmes revendications depuis pratiquement l'indépendance de ces pays.
C'est le slogan des chômeurs du Sud. Hein.
Voilà.
Exactement.
Le karama ou
l'estimaïta. Et cela souligne l'échec des États postcoloniaux qui ne sont pas arrivés.
De souligner le mouvement des chômeurs du Sud, c'est très, très important.
Tous les mouvements, c'est-à-dire de révolte, d'insurrection qu'il y a eu, sont basés sur les mêmes revendications. Ce qui, à mon sens, souligne la défaite, plutôt l'échec. L'échec de ces pays, de ces États. C'est-à-dire, grosso modo, on peut dire qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, ces trois pays, si on prend les trois principaux pays du Maghreb, Tunisie, Algérie et Maroc, ont eu leur indépendance. Depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit les États coloniaux qu'ils ont chassés. C'est-à-dire, et on répond aux revendications du peuple par la violence.
La répression. On reproduit les mêmes pratiques d'un colonisateur.
Quand on voit, c'est-à-dire les revendications principales de ces mouvements, qui sont en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, ils réclament du travail, ils réclament du pain, de la liberté, de la dignité et de la justice sociale. C'est-à-dire que les choses fondamentales...
Il y a aussi la question identitaire qui revient. Oui. L'identité dans son sport...
Il y a un fond identitaire. La question identitaire qui se pose dans ces trois pays, ça veut dire qu'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, aucun État n'est arrivé à proposer une solution à un problème identitaire vieux de plusieurs siècles. Et donc c'est la même chose que sporadiquement en Tunisie, en Algérie, en Libye et ailleurs, les gens revendiquent leur identité qui a été spoliée, ou alors revendiquent du travail, du développement, de la dignité. Donc l'échec est commun à ces trois, aux grands pays du Maghreb. Nous n'arrivons pas à fournir, les États n'arrivent pas à fournir les réponses, c'est-à-dire des réponses aux attentes légitimes des peuples. Et c'est un cycle qui se reproduit indéfiniment.
C'est un cycle qui se reproduit indéfiniment dans un contexte qui est un peu instable dans les régions avec la région du Sahel, mais aussi, c'est important de souligner que cet échec des États, ça ne traduit pas un échec, bon, pas de la société, mais c'est une société qui va se chercher à quel sein se vouer, pas une question de société. Elle-même, elle ne se reconnaît pas, elle ne sait pas quel projet de société, parce qu'on parle d'échec d'État et de société. À construire des pays développés, à construire d'une justice sociale, Karim.
C'est-à-dire, on l'a résumé, mes amis l'ont résumé chacun à sa façon. Il y a un échec, justement, il y a un échec de la construction, pour le cas par exemple de l'Algérie, il y a un échec de la construction de l'État. Parce que si on analyse aujourd'hui la situation, pratiquement toutes les questions ne sont pas réglées. On n'a pas encore réglé la question de la place de la religion, on n'a pas réglé la question de l'histoire, la nature de l'État, on n'a pas réglé sur le plan administratif, on n'a pas réglé l'école que nous souhaitons pour nos enfants.
Tout reste à construire.
Un peu moins, ils ont des traditions d'État, un peu moins la Tunisie et le Maroc, mais en même temps, ils ont adopté par solidarité ou parce que c'est culturel aussi, ils ont adopté aussi des formes de gouvernance, mais qui ne répondent pas aux aspirations de la population. Et c'est pour ça que donc régulièrement il y a ces revendications. Moi pour revenir à la question identitaire, je crois que c'est un sentiment qui est très très profond. Il est très profond au Maghreb. D'ailleurs, regardez par exemple vis-à-vis du Rif, l'une des régions qui a exprimé sa solidarité, c'est la Kabylie. Elle a directement senti cette proximité. C'est-à-dire... Mais en même temps, je pense que ce qui a fait que l'identité s'exprime, c'est parce que sur le plan économique, les régions étaient très, 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 très pauvres, très marginalisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été intégrées dans la démarche de développement du pays. Si même, allez, si on peut apporter d'une certaine façon aussi, même pas la guerre d'indépendance, ce sentiment des Algériens de revendiquer leur identité, c'est c'est parce que sur le plan économique, c'était la grande misère. Mais je suis sûr que s'il y avait, il y a un développement, il y a, elle va s'exprimer d'une autre façon, d'une autre manière. C'est-à-dire en termes de reconnaissance, en termes de, mais pas, elle va pas donner cette force à cette dynamique de revendication si sur le plan économique, les choses étaient mieux gérées. Enfin, c'est mon avis. C'est-à-dire, la force qui a donné...
C'est l'élément qui réunit...
C'est parce qu'on se sent qu'on est marginalisé. C'est pour ça qu'on dit que nous, on a été marginalisé parce qu'on est kabyle. Parce que sur le plan économique, on a été très misérable. C'est-à-dire, on a été laissé en marge du développement. C'est ce sentiment qui a renforcé cette revendication. C'est-à-dire, c'est parce que à l'origine, sur le plan économique, les gens sont réduits à la survie, pratiquement.
C'est-à-dire, on a réduit toutes les régions à lutter pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, ce qui fait une sorte d'enfermement sur soi. Mais bon, par rapport aux, disons, pour le cas de l'Algérie, on est des multiplications des mouvements, des revendications sociales, dans un contexte aussi politique qui est un peu d'une certaine incertitude par rapport à l'avenir politique du pays, dans un moment où tout est à refaire, une société qui subit des répressions, une société qui revendique, mais aussi il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, même un projet de société qui n'est pas.
Je voudrais juste, c'est-à-dire par rapport à la question de l'exclusion, c'est-à-dire si on peut dire régionale, c'est-à-dire c'est pas le même cas que les RIFA. C'est-à-dire, je t'explique. Premièrement, après l'indépendance, c'est-à-dire la Kabylie, la région de Kabylie a été intégrée politiquement quand même, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, c'est eux qui ont construit le mouvement national.
Les gens sont l'inverse en Algérie.
Là, le sentiment, c'est le discours sur une chose. Le discours, c'est une chose. Mais la réalité, c'est-à-dire...
Attends.
C'est-à-dire, il y a le discours, il y a un discours idéologique, tout ce que tu veux, c'est une chose. Mais la réalité, la complexité, c'est autre chose. Par exemple, quand même, ce n'est pas les RIF, c'est-à-dire on a des autoroutes, on a des hôpitaux, des universités. Attends, c'est-à-dire, je vous explique. En termes d'intégration des élites issues de la région de Kabylie, ils sont mieux intégrés. C'est-à-dire, juste après l'indépendance et jusqu'à présent. C'est-à-dire, dans l'armée, dans les administrations, dans les grandes entreprises.
Bah, c'est une certaine élite. Non, on parle du mouvement.
Attends, je t'explique. Il y a une différence. C'est-à-dire, au RIF, Madjouch, tu ne passes pas. Tu es rifain, mais ici, c'est le contraire. Il y a la proximité. Premièrement, c'est une région qui a été lettrée, déjà d'autant de la France, qui a fourni des cadres pour le mouvement national, pour la révolution et pour l'État indépendant. Quand on voit son attraction, le gaz dans l'armée, les AE, des ministères, c'est-à-dire les grands ministères, les grands PDG, ils sont issus de la région de Kabylie. En 68, par exemple, la Wilaya Tizouzou a bénéficié à l'époque de Boumdine d'une somme colossale comparativement, c'est-à-dire comparativement aux autres wilayas. C'est-à-dire, c'est pas un truc exprès. C'est-à-dire, il faut les appauvrir. Quand tu vois la topographie, vous avez des routes, vous avez malgré l'hostilité du terrain, c'est électrifié, avec le gaz, tu as des écoles, tout ça. Et ces écoles-là, les hôpitaux, toutes les infrastructures, c'est pas Tajbat qui l'a construit quand même. Ça demande énormément d'argent. Mais le problème, c'est-à-dire, il y a une dynamique de développement, pas uniquement à la Kabylie, c'est-à-dire partout, quand on parle de sous-développement, c'est toute la région c'est toute l'Algérie qui est sous-développée. Quand on va bouger, on a plus de zones industrielles, le Borj et ailleurs, des entreprises plus importantes qu'ailleurs. C'est-à-dire, on est dans la moyenne quand même. Quand on voit le taux du bac, on est les premiers au niveau national. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a pas une volonté réellement pour dire, c'est-à-dire, exclusion, Thomas Bale, vous n'aurez rien. Là, c'est un discours. Contrairement aux RIFA. C'est-à-dire, contrairement, j'essaie de mettre ce bémol, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le mimétisme avec le discours qui dit blic, on n'a rien eu. Non, c'est vrai, les gens sont insatisfaits, mais c'est normal. Mais au point de dire blic, on n'a rien eu, c'est faux. Je suis à Alger, j'ai fait mes études en Kabylie, c'est grâce à la massification de l'enseignement qu'on est là, sinon nos parents ne pouvaient pas. Pays, on a une bourse. Il faut mettre un peu de bémol, c'est-à-dire pour ne pas compliquer les choses. Et en tant qu'acteur du mouvement social, justement, si on n'arrive pas à comprendre cette réalité et on reste dans ce discours superficiel, si on n'a pas les éléments, l'ancrage de l'État, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, comme si depuis des siècles on vivait en autarcie du monde, on a été indépendant soi-disant. C'est faux. Et en tant qu'acteur ou la chercheur ou la journaliste ou analyste politique, si on n'arrive pas à comprendre cette complexité, ça veut dire qu'on n'a rien compris, on ne peut pas dépasser. Et la science, le savoir, l'esprit critique, justement, il est utile dans ce genre de situation qui nous permet de mieux être éclairés. Par exemple, le rapport entre société et État. Si on n'arrive pas à reprendre cette connexion, on ne peut pas. Même en pleine insurrection en 2001. Mais il y avait ce qu'on appelle le parti de l'ordre. Le parti de l'ordre, ce n'est pas seulement la police ou le FLN et autres. Mais au fond, il y a des gens qui ont peur. C'est alimenté parce qu'il y a un rapport, il y a une attente. C'est-à-dire, s'il se découpe de l'État central, il n'aura plus son salaire à la fin du mois, les APC, c'est tout le monde qui vivote autour de l'appareil. Et c'est des millions qui vivotent.
Mmh. Bon, moi, je ne partage pas tout à fait la vision de notre ami Samir. Je pense qu'il y a une marginalisation de la Kabylie, mais surtout depuis l'arrivée de l'actuel président, qui, rappelons-le, n'a jamais mis les pieds dans aucune ville de cette région de Kabylie.
En dehors des rendez-vous électoraux,
on vient, c'est connu, on fait des promesses et puis on parle. Par contre, il y a une justice sociale, c'est vrai, parce qu'ailleurs, il est allé ailleurs, et il a avec les bras chargés de projets, et les projets plutôt. Les grandes, disons, sociétés qui existent en Kabylie sont surtout d'ordre privé. Ce sont toutes des sociétés privées. On ne va pas se cacher la vérité pour dire qu'il y a effectivement, c'est-à-dire que la Kabylie est punie pour n'avoir pas apporté son soutien à l'actuel président.
Pardon,
Jamel, mais juste, Jamel, je vais finir.
Je te raconte un truc que j'ai vécu. Par exemple, la question de la raffinerie qui devait faire à Elxer. Quand il y a eu le projet, tout ça, les premiers c'est-à-dire à s'opposer au projet, c'était le comité citoyen de la société civile, c'était Ali Arbi, qui ont refusé ce projet. L'argument, c'était quoi? Oh, Tsarmaran, c'est les emplois, vous n'allez pas nous acheter avec vos projets. Ouais. Et là, 10 ans après, c'est tout le monde qui pleurniche. Juste un petit témoignage.
Bon, on peut multiplier les exemples par dizaines. Je peux aussi te donner l'exemple
un contre-exemple
du taux de pénétration du gaz de ville dans les, c'est-à-dire tout le monde sait que la Kabylie est l'une des dernières le taux de pénétration du gaz de ville. Bon, l'essentiel, ce que je pense moi, c'est que la dynamique de développement a touché beaucoup plus les villes que les zones rurales. J'ai l'habitude d'aller dans les Aurès et je trouve que les régions montagneuses et rurales des Aurès sont extrêmement pauvres. Si on prend la légitimité révolutionnaire historique comme partage, comme indice de partage de la rente pétrolière, je pense que les Aurès ou la Kabylie, qui sont connus pour avoir sacrifié beaucoup pour l'indépendance nationale, sont en droit de revendiquer
leur
part de développement. Seulement, je pense que ce régime utilise, il est sur un autre schéma, c'est-à-dire ce n'est pas parce que il y a un réseau de clientèle qu'il utilise. Soit vous êtes avec moi ou contre moi, que vous soyez dans les villes ou ailleurs, que vous soyez berbère ou arabe, on utilise, il a des clientèles, sa propre clientèle avec lesquelles il partage la rente, le reste de la population est marginalisé. Je pense que ce schéma est valable aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Au Maroc, tout le monde parle de Fès, qui est un peu la ville de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Tout le monde parle de Casablanca comme étant la capitale économique.
Mais c'est plein de bidonvilles, de pauvreté, de misère. Oui, mais
parce qu'il y a des classes sociales.
C'est du développement de façade, donc
construire
des villes.
Donc je disais tout à l'heure que ces États, après l'indépendance, n'ont pas réussi à asseoir l'idéal de justice sociale.
Ces structures,
sur lequel ils étaient fondés.
Censés être fondés.
Le fonds identitaire, nous sommes en Afrique du Nord, c'est un pays historiquement berbère. Donc leur revendication est légitime, que ce soit, c'est-à-dire au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Algérie. Mais cette question-là n'a jamais été réglée. Et donc on peut multiplier aussi les exemples concernant le développement économique des régions. Les régions...
Le Sud aussi, il a énormément souffert.
Exactement. Pour reprendre, tout à l'heure, on parlait de la région du Rif. Et au Maroc, il y a ce qu'on appelle... Les régions se divisent en deux, Bled Seba et Bled Mkhzen. C'est-à-dire Bled Seba, c'est le pays de la révolte, de la rébellion.
L'opposition.
Et c'est l'opposition.
Les terres du peuple.
Et Bled Mkhzen, c'est plutôt les gens et les régions qui sont soumises à la clientèle.
Mais on a...
C'est exactement la même chose ici. Il y a des régions qui sont acquises au pouvoir, il y a des segments de société, des segments plutôt de société. C'est-à-dire, bon, allez, on prend la famille révolutionnaire, on prend, pour ne citer que cela, c'est des segments de société qui sont acquis.
Mais en parlant de ça aussi, on ne peut pas dire Oran, toute Oran, la ville d'Oran, c'est la belle. On ne peut pas dire aussi...
Il ne faut pas tomber dans la caricature non plus.
Non, pas dans la caricature.
Quand on dit toute la région, des régions acquises au pouvoir, quand on voit les résultats des élections, par exemple, plus de, 70% des gens qui ne votent pas, ils ne sont pas acquis quand même.
Ils
n'ont pas bénéficié de leur rente.
Quand on voit les émeutes, par exemple, il y a une insatisfaction généralisée. Quand on voit les émeutes sur la question de l'eau, l'emploi, le truc, c'est généralisé dans toutes les régions. Ce n'est pas uniquement Ouargla, Annaba, Sétif, Borj.
C'est ce que je disais, ces régions-là, c'est au Maroc. Au Maroc, vous prenez des régions qui sont acquises au pouvoir et qui ont des dividendes. Les autres sont marginalisées, complètement marginalisées. Ici, ce n'est pas, on ne reproduit pas ce schéma en termes de région, on reproduit ce schéma en termes de segments sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des segments sociaux qui sont acquis, il y a des classes qui sont acquises, comme la classe de l'affairisme. Qui sont des importateurs, des gens qui
mais on n'a pas parlé du cas.
Des industriels à qui on offre l'opportunité de bénéficier de la rente pétrolière, c'est-à-dire disant les choses simplement, et d'autres qui sont marginalisés parce qu'on n'en voit pas l'utilité.
Justement, maintenant, bon, puisqu'on arrive à terme de l'émission, il y a un aspect qu'on n'a pas en quelques mots. Il y a du côté, c'est la même chose, du côté de la Tunisie, les parties côtières sont des parties hautement développées, qui ont la part ou l'accès à l'emploi, de plus ou moins que les autres parties intérieures. D'ailleurs, c'est des côtés intérieurs que la révolte a commencé, que les gens sont tombés, sont sortis pour manifester. Donc, en quelques mots, pour qu'on termine, il y a aussi cette question de justement cette région, est-ce que son destin il est commun? On ne peut pas dire que le Maroc va développer, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le reste sera à la traîne. Donc, soit le destin il est commun, soit tout le monde va être à la traîne. Donc,
c'est-à-dire dans les trois pays, il y a eu des inégalités régionales. Là, c'est un fait. Ah oui, bien sûr. Non, je parle en termes de distribution, des inégalités, c'est structurel même. Mais dans la politique, quand on fait par exemple les plans d'aménagement du territoire, c'est-à-dire on décide de développer des secteurs d'activité, tout ça. Il y a une inégalité. On se concentre vers les grands pôles. Le centre, par exemple, il a la part... Bon, c'est vrai, vous avez plus de 60% de la population qui est concentrée. Le centre-est et ouest, vous avez l'Oranie, Constantine, Annaba. C'est les grands pôles. Et vous avez d'autres régions, plus ou moins. Il y a eu un début d'effort d'industrialisation pendant les années 70, mais juste après la crise des années 80, c'est-à-dire, c'est-à-dire il y a eu un abandon. C'est-à-dire au-delà des limites, hein, c'est-à-dire, je cite un exemple, je ne comprends pas pourquoi je vais développer un truc de textile, c'est-à-dire la montagne, où il n'y a pas d'eau. Qui a besoin, ça ne peut être que voué à l'échec. Il y a beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas que la non-volonté de développer ou là quelque chose, même des choix structurants dans.
Les choix de développement.
Des choix de développement, c'est-à-dire des types d'industrie qu'on doit développer.
Est-ce que d'ailleurs, c'est le cas de la Tunisie, là où ils s'expriment de
Par
façon
exemple,
frappante.
Et avec le phosphate.
Parce voilà. que voilà, ils ont opté pour le oui. développement durable. C'est un pays qui n'a pas.
C'est lié à ça.
C'est pas un pays qui a beaucoup de ressources. Donc ils ont misé sur le développement durable, notamment le tourisme. Donc ils ont développé pratiquement toutes les villes côtières au détriment des villes de l'intérieur qui sont beaucoup plus agricoles, tout ça. C'est pourquoi qu'aujourd'hui que les Tunisiens sentent ces disparités et on voit que les contestations sont focalisées essentiellement dans les régions intérieures comparées aux
zones.
Même les choix de formation, par exemple au sud. C'est-à-dire sur une zone pétrolière. Au lieu de développer, par exemple, un institut de pétrole lié à ça, c'est-à-dire c'est tout le monde, on ouvre des instituts de droit, de sharia, ou l'akhar, qu'est-ce que Sonatrach, ou là, les Schlumberger, ou là, les autres sociétés vont foutre avec quelqu'un qui a fait droit. J'en ai
justement,
pas besoin.
Pour en finir, pour qu'on termine cette émission, un dernier mot, Jamel, à l'Ilette.
Ben, je pense que les trois, ou plutôt tous les pays maghrébins, sont liés par un destin commun. Nous avons, au-delà des frontières fictives qui nous séparent, nous avons la même histoire, la même culture. Moi personnellement, je me sens partout chez moi. Et on gagnerait plus, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une véritable dynamique de développement.
Dynamique de développement, une solidarité.
Une solidarité.
Non, Karim, une solidarité effective.
Entre ces pays. Ensemble, nous sommes un marché de 100 millions de consommateurs.
On est la porte aussi de l'Afrique, donc.
C'est-à-dire, nous avons plus d'atouts à nous unir et qu'à nous chamailler comme les
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience chez le peuple maghrébin qu'on appartient à un espace commun, qu'il y a une profondeur berbère qui les lie, qui est très puissante. D'ailleurs, elle constitue un peu le soubassement de ce qui il se passe d'une certaine façon en ce moment. Et je crois qu'il y a une conscience aussi que le destin est commun. Moi, je garde espoir que quand même qu'on va parvenir à quelque chose. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas encore ces échanges, il n'y a pas de lien entre les élites. Mais en tout cas, c'est timide. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il doit être fait, c'est timide. Mais je suis sûr que ça va venir un jour.
C'est-à-dire on a besoin de solidarité, on a besoin aussi de plus de contacts, plus de liens entre les mouvements sociaux.
Absolument, c'est-à-dire c'est normal, soit avec les Marocains, soit avec les Tunisiens, et même en Algérie. C'est-à-dire
les Libyens.
Les Libyens, c'est-à-dire tous les gens qui luttent sur le terrain, qui posent des questions démocratiques et sociales, c'est-à-dire légitimes, je pense qu'il est de notre devoir de
jeter les ponts, les passerelles. Voilà.
Jeter les ponts, les passerelles et avoir une solidarité effective, une mobilisation sérieuse. C'est-à-dire mobiliser tous les militants, soit syndicalistes, associatifs, des militants de partis politiques ou des simples citoyens, des intellectuels, tout le monde, justement pour
créer
des dynamiques régionales et montrer notre solidarité. Parce que c'est des êtres humains avant tout d'abord.
On vous remercie tous. Karim Kibir, journaliste au quotidien Liberté. Samir Larabi, journaliste et chercheur en sociologie. Jean Chercheur, je rappelle. Jamel Alilet, journaliste et reporter au quotidien à l'Ouattan. Vous remercie tous. À la prochaine émission. Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.